J'ai compris le message. Ça fait longtemps que vous me le dites. Mais ça ne marche pas. Et là, ça va fonctionner. Aujourd'hui, là, c'est sûr. À quelle heure qu'on finit, juste? C'est-tu midi ou midi moins quart? Ou... Mêle-moi pas, mon juste, là. Et voilà. Merci beaucoup. Ça va bien ce matin? Ah oui? Il pleut! Ah, ça fait rien s'il pleut! Ça va bien pareil! Avez-vous un petit soleil dans votre cœur? Tournez dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Chapitre 9 de Matthieu, versets 35 à 38. Une image, deux grandes vérités et trois mots d'ordre que j'ai pour vous ce matin. Matthieu, chapitre 9. Verset 35. On lit ceci. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. » Tournez dans le chapitre 8 de Romains, s'il vous plaît. 8, 28. À 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, j'ai tenu aujourd'hui, pour une raison assez spéciale, le 2 juin 2013, à porter ce message. Parce que je crois que depuis les 30 dernières années, c'est ça qui a toujours été au fond de mon cœur. D'être quelqu'un qui enseigne de ressembler à Jésus. D'être aussi un chrétien, des chrétiennes qui ont pour but de partager leur foi, pas juste verbalement, mais de la manière que nous vivons. Et j'avais bien à cœur de partager cela ce matin. Et j'aurais pu l'intituler autrement, j'aurais pu intituler le message « L'Église en mouvement, militante et souffrante ». Vous m'avez entendu dire ça souvent, parce que c'est une citation que j'ai perdu l'auteur, je crois que c'est M. Garnett qui avait dit ça, Paul Garnett. Dr. Garnett nous disait, si vous voulez résumer l'histoire de l'Église au travers des siècles jusqu'à nos jours, puis encore de nos jours, vous avez entendu parler des Églises persécutées un peu partout. Et c'est vraiment un temps, D.A. Carson, dans son cours des Épîtres pastorales, il parlait de justement cette vérité-là, où ce que on est dans un monde, si vous avez une lecture du monde plus large que Trois-Rivières, vous allez vous apercevoir que ce qui se passe ailleurs, c'est énorme. Il y a de la persécution, et les vertus judéo-chrétiennes sont attaquées de tous bords, de tous côtés. Christ est ridiculisé. Un matin, même à CNN, Fred Bonheur, ce matin, il y avait une sorte de je sais pas trop quelle dénomination il était. Il avait une grosse croix dans le cou, puis il était habillé en mauve. Et il est en train de dire que les gens qui ont subi la tempête à Oklahoma, là, avec les tornades et tout ça, qui ont vécu deux enfers sur Terre et que l'enfer n'existait pas après la mort. Et c'est quand même un peu partout dans le monde où ce qu'on attaque les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et j'aimerais aussi partager avec vous cette bonne nouvelle que nous avons. Vous savez, les années passent, les gens changent beaucoup. Nous, nous changeons aussi. Et on réalise qu'on est d'un monde, mais la première chose qu'il faut réaliser ce matin, que j'aimerais partager avec vous, c'est cette image qu'on a vue tout à l'heure, de Jésus qui tient des brebis dans ses mains. Vous savez, le Seigneur n'est pas venu chercher ceux qui n'étaient pas malades. Il est venu chercher ceux qui sont malades. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont perdus. Le problème, c'est qu'on ne se croit pas malade, qu'on ne se croit pas perdu. Et c'est pour cela, en fin de compte, que tout ce que nous vivons et tout ce que nous décidons dans nos vies nous affecte énormément. C'est très fort, hein, je crois, que vous excusez pour les oreilles. Merci. Et j'aimerais vous dire une belle image, le mouvement d'Église. Je ne sais pas si vous connaissez de Newton, le mouvement perpétuel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis j'aimerais vous dire que suite après la chute, Dieu a pourvu. Il a pourvu un sauveur. Et ça a parti un mouvement perpétuel jusqu'à son retour, ou que son Église va être enlevée. En attendant, il y a ce mouvement qui est là, qui est perpétuel. C'est l'avancement de l'Évangile dans toutes les époques, dans toutes les circonstances, de toutes les nations, de toutes les langues. Il y a des époques où les pays sont ouverts, les pays sont fermés, comme la Russie est ouverte présentement. Il y a énormément de conversions parmi les Chinois dans ce temps-ci. Il y en a moins à certaines places, dans certaines places du monde. Mais il y a toujours ce mouvement perpétuel de l'Église terrestre jusqu'au retour du Seigneur qui va enlever son Église et l'emmener avec lui. Et j'aimerais aussi souligner ceci avant d'aller dans le texte ensemble. C'est que le Seigneur, dans sa grâce, a fait en sorte que nous faisons partie de cette Église. Nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes en mouvement pour Dieu. Et comme je dis souvent, vous savez, lorsqu'on va être rendu avec le Seigneur, lorsqu'on va voir le Seigneur face à face, 1 Jean 3:2, qu'on va le connaître comme qu'il nous connaît, lorsque la présence même du péché sera plus en nous, on n'aura plus de nature pécheresse, on va pouvoir mieux adorer. On va pouvoir mieux se rappeler les Écritures. On va pouvoir mieux avoir des meilleures relations les uns avec les autres. Et savez-vous une chose qu'on ne fera plus lorsqu'on arrive au ciel? C'est partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont perdus, avec ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et c'est pour ça que tout de suite après la chute, la première promesse de Dieu concernant le Messie, dans Genèse 3, 14, 15, qui dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, qui est une des premières prophéties messianiques dans la Bible. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous rappeler que cette transformation à l'image de Jésus, ce n'est pas un zap. Ce n'est pas quelque chose comme le café instantané, où on met une cuillère et de l'eau bouillante, puis on a le café tout de suite. Être transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est de gloire en gloire, nous dit la parole. De progrès en progrès. On est tous en transformation. Et cette transformation a commencé lorsque on a accepté l'Évangile. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Lorsqu'on a placé notre foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, qu'on est devenu enfant de Dieu. Et le texte qu'on a vu ce matin du chapitre 9 de Matthieu est un cri de cœur de Dieu au travers des siècles, pour son peuple, ses disciples. Si on regarde ce texte ensemble, j'aimerais qu'on prenne quelques temps pour laisser ce texte nous pénétrer. Et le Seigneur va prendre une image très connue de l'époque du premier siècle, un berger et des brebis. C'est même une image qui est prise dans l'Ancien Testament, une image qui représente la relation de protection, de nourrir, de protéger, de guider les brebis. Un berger amène ses brebis pour les nourrir, les protéger, les entourer, les guider. Et le Seigneur va voir cette foule languissante. Et là, on voit la miséricorde de Dieu. On voit Jésus qui est troublé, ému dans son âme, au plus profond de ses tripes, littéralement. Et il voit cette foule et il dit, « Voici pourquoi ils sont tellement malheureux et à mauvais état. Ils n'ont pas de berger. » C'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et lorsqu'on regarde le monde sans Dieu, sans l'Évangile, on entend parler de la persécution, on entend parler de l'avortement, beaucoup cette semaine aussi, hein, vous savez, le supposément héros. On entend parler de famine, on entend parler de tornades, on entend parler de désastres, on entend parler d'inondations, on entend parler d'un paquet d'affaires. Et les gens se tournent vers toutes sortes de philosophies, de manières de penser, de lectures de ce monde, pour essayer de combler ce vide. Et nous, on voit ça à la télévision, il arrive des malheurs à gauche, à droite, puis les gens parlent, puis les gens essayent de trouver une réponse et une raison, un sens à la souffrance terrestre. Et ça ne satisfait pas. Et c'est pour ça que ce matin, lorsque le Seigneur nous présente cette image, moi je crois qu'elle est universelle, qu'elle traverse les siècles. Cette image, et on n'a pas besoin d'être des bergers, et on n'a pas besoin d'avoir des brebis d'enclos chez nous pour vraiment comprendre cette belle image de celui qui prend soin des autres. Et il y a des pièges dans ce texte. C'est lorsqu'il parle à ses disciples. Vous savez, quelqu'un m'a dit l'autre jour, il y a deux sortes de chrétiens, il y a les chrétiens et les disciples. C'est faux. On est tous des disciples. Et le Seigneur ici est en train de dire à ses disciples de prier pour les ouvriers. Et j'aimerais vous suggérer que le mot ouvrier, qui parle de travail, simplement, c'est un mot qui nous dit de travailler, qui nous dit ergatas, qui veut dire tout simplement de mettre de l'effort. Il faut savoir, ce n'est pas une deuxième catégorie de chrétiens qu'on voit là. Ouvriers et chrétiens et disciples, c'est la même chose. Ils s'adressent aux mêmes personnes. C'est certain, lorsqu'on lit ce texte, on pense ouvrier ici, et là on va se dire, ben, ouvrier c'est quelqu'un ça qui est missionnaire à quelque part, qui est payé par une église. C'est quelqu'un qui a fait des études spéciales, et c'est quelqu'un qui fait des choses spéciales, et consacre tout son temps pour l'œuvre de Dieu. Lui, c'est un ouvrier. Moi, je suis juste un chrétien normal. Mauvaise pensée. Moi, j'aimerais argumenter, on n'a pas le temps de faire tous les arguments ce matin, que le Seigneur est en train de parler à ses disciples, donc nous sommes. Il est en train de nous dire à chacun de nous que nous sommes des ouvriers, et l'appel de l'ouvrier, c'est de sortir de ses zones de confort pour aller vers le monde sans Christ. C'est ça l'appel. L'appel, c'est de sortir l'Évangile d'entre les quatre murs de cette chapelle ou de ce bâtiment que nous avons. Nous sommes l'Église. Là, vous l'avez entendu l'année passée, souvent, ça, hein? Mais est-ce que vous réalisez que quand on dit « nous sommes l'Église », le Seigneur est en train de dire ici, vous êtes des ouvriers. Puis priez. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie ses ouvriers. Il envoie où? Parmi le monde. Parmi cette belle image nous dit, l'ouvrier va où les brebis n'ont point de berger. C'est là, c'est ceux qui n'ont pas l'Évangile. Et j'aimerais vous souligner ce matin, en fin de compte, que j'aimerais que vous vous considériez, que vous receviez, des dons, un salaire, ou que vous soyez bénévole, que vous soyez quelqu'un qui est ici comme chrétien, vous êtes des ouvriers, des travailleurs. Chaque âme est appelée selon le don qu'il a reçu, selon l'appel de Dieu dans sa vie, à œuvrer à l'extérieur des quatre murs entrer dans le monde. Pourquoi dans le monde? Parce que l'image des brebis qui sont dépourvues, angoissées, tannées, maltraitées, c'est ceux qui n'ont pas l'Évangile. Et notre réponse à nous, à ceux qui vivent des choses, on a entendu d'aide à ceux des endeuillés, on a entendu Stéphane tout à l'heure qui parlait à propos d'options grossesse, qui parlait à propos de sortes de choses. Nous, les chrétiens, nous sommes des ouvriers pour aller dans un monde perdu, un monde sans Dieu, sans espérance, avec un message. Et ce message, c'est une bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, nous voulons l'annoncer et nous voulons la proclamer à la gloire de Dieu. Quand je vous parlais de trois mots, de deux grandes vérités, trois mots importants, un, deux, trois. Premier mot très important, missiologie, la mission. Et là, encore là, faisons attention, je ne suis pas en train de parler de Sim, je ne suis pas en train de parler de Wycliffe, je ne suis pas en train de parler des missions para-ecclésiastiques, je suis en train de parler de cette mission que le grand visionnaire Jésus-Christ nous a tous donnée à nous, ouvriers qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Allez par toutes les nations, faites des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que vous êtes prescrit. Voilà le visionnaire. Quand il n'y avait pas un chrétien sur la terre, le grand visionnaire a dit, voici votre vision, votre étoile du Nord, et donnez-vous des outils pour accomplir ce que je vous ai donné comme vision. Et le Seigneur va dire, allez par toutes les nations. C'est-à-dire que nous allons. Tout ce que nous faisons dans l'Église passe par la mission. Nous sommes une Église en mouvement. La mission, que ce soit dans notre Jérusalem, que ce soit dans Samarie, que ce soit jusqu'aux extrémités de la terre. On est une Église en mouvement, en mission, et nous sommes tous des ouvriers pour Dieu. Nous travaillons à l'œuvre de Dieu. Et c'est sûr qu'on ne fait pas tous la même chose. J'ai entendu l'histoire d'un combine, un gars dans l'Ouest qui nous expliquait ces grandes machines qui ramassent le blé dans l'Ouest, et qu'il y avait à peu près une dizaine de gars qui travaillaient sur un combine. Ils appelaient ça un combine. Ça. C'est pas tout le monde qui chauffait le combine. C'est pas tout le monde qui était à côté pour démêler les choses qui arrivaient. Chacun avait sa place, chacun avait son travail, selon son habileté, selon son appel du patron. Et c'est la même chose pour nous, frères et sœurs. On est tous sur le même plancher. On est tous en train de travailler à l'appel de Dieu. On est tous appelés des disciples, on est tous des ouvriers, on est tous ceux qui ont la bonne nouvelle, qui avaient comme message. Alors c'est important tout cela, et c'est ça que je voudrais vous partager. L'Évangile, c'est notre mission. C'est notre mission, sortir l'Évangile. Qu'est-ce qu'on va faire comme chrétien? On va t'arrêter de chanter, on va t'arrêter de prendre le repas du Seigneur, on va t'arrêter d'étudier la Bible? Non! Mais tout ça va vers ou est catalysé par la mission. Se préparer à annoncer cette bonne nouvelle, pas rien que verbalement, mais l'annoncer en vivant l'Évangile, en nous aimant les uns les autres comme Christ nous a aimés, en étant des lumières dans ce monde pervers et corrompu, en étant des gens qui marchent pour Dieu. Et c'est un mot extrêmement important ce matin, c'est la missiologie, ça veut dire que nous marchons. Nous sommes en mission, et la mission, c'est l'Évangile. Vous avez peut-être une centaine de projets dans votre tête pour Dieu. Mais le premier projet de Dieu, c'est vous, afin que vous soyez un ouvrier avec l'Évangile. L'Angelios, qui veut dire la bonne nouvelle. Le deuxième mot, c'est la Christologie, l'incarnation. Vous savez, s'il y a quelque chose que le monde a de la misère à digérer, c'est lorsqu'on parle de l'incarnation, Jésus né dans une vierge. Mais qu'est-ce que ça veut dire incarner? Ça veut dire que c'est une transformation qui s'est faite miraculeusement par l'assistance de Dieu où Dieu est devenu homme, 100% homme, 100% Dieu. J'aimerais vous proposer aussi que le Seigneur, dans Jean 17, dans cette prière sacerdotale, va dire ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, l'incarnation, c'est Dieu qui obéit à son Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu envoie son Fils, le Fils, d'accord, vient. Il vient dans ce monde, il incarne la présence de Dieu dans le premier siècle. Lorsque Jésus marchait sur la terre, c'est Dieu qui marchait sur la terre. Lorsque Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait. Lorsque Jésus faisait un signe de la main, c'est Dieu qui faisait un signe de la main. Il incarnait Dieu. L'homme parfait de Dieu et le Dieu parfait des hommes. C'est l'incarnation. Et là, celui qui est venu, Dieu, dit ceci dans cette prière, peu avant sa crucifixion, comme, un autre comme des brebis, pas de berger, et comme tu m'as envoyé. De quelle manière est-ce que le Père a envoyé son Fils? Il l'a envoyé d'une manière. Vous savez la différence entre envoyé d'une manière? C'est que Dieu a tout choisi. Il a choisi le sexe, il a choisi l'endroit où ce qu'il va naître, il a choisi l'étable, il a choisi ci, il a choisi la famille, il a choisi la jeune fille, etc., etc. Dieu s'est incarné d'une manière, il a marché dans son ministère. Comment est-ce qu'il a marché? Il a marché en parlant de la parole de Dieu, en faisant du bien autour de lui, en guérissant des malades, en démontrant la puissance de Dieu, pas juste par ses paroles, mais aussi par ses gestes, par sa compassion pour les gens qui souffrent. C'était les pauvres, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les collectionneurs de taxes, qui venaient près de Jésus. Et donc, vous connaissez comme moi toute cette opposition, n'est-ce pas, avec les pharisiens de l'Église de l'époque, et toutes ces choses-là. Et là, le Seigneur marche sur la planète Terre dans un monde de ténèbres en étant la lumière du monde, en étant le sel du monde. Et Jean 17 nous dit, « Je vous envoie, vous mes disciples, vous mes ouvriers, de la même manière. » Moi aussi, je la vois à l'horloge. Et ça, là, ça va être dur. Midi et demi, t'as dit, Maurice? Mais vous voyez l'idée, c'est de la même manière que Jésus a fait son ministère. Nous sommes appelés à faire le même ministère que Jésus, à ressembler à Jésus, d'être transformés comme Jésus, de gloire en gloire, à l'image du Seigneur, de progrès en progrès. Les quatre P, en fin de compte, qu'est-ce que Jésus faisait? Il y avait la proximité, il était avec les gens. Si on côtoie pas les gens qui connaissent pas Christ, on ne peut pas partager la bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord? Ben oui. L'évangélisation explosive est basée là-dessus. Kennedy, c'est ce qu'il disait. Quand vous venez au Seigneur, vous avez un set d'évangélisation, vous le faites tout, après 5, 6 ans, 7 ans, tous ceux que vous connaissez, ils ont tout entendu l'Évangile, soit qu'ils l'ont refusé ou qu'ils l'ont reçu. Il n'y a plus de cercle de témoignages. Il faut créer des nouveaux cercles. Il faut aller là où ce que les gens y sont. Le deuxième pays ici, c'est la présence de Dieu. C'est vous qui allez être la lumière des ténèbres. Dieu, dans sa sagesse, nous a choisis, oui, nous, limités. Nous qui ne sommes pas parfaits, nous qui chutons. Il nous a choisis dans sa grâce d'être les porte-paroles de la transformation, de la puissance de l'Évangile. Et c'est ça qu'il faut savoir. C'est cette manière-là, sans puissance temporelle. Sans puissance monétaire, s'ils n'avaient pas la puissance monétaire, sans puissance politique, sans puissance de ci et de cela, le Seigneur y a été avec ses tripes, il a été avec son cœur vers ceux qui ont besoin de l'Évangile. Le quatrième P, c'est avec passion. Une passion que si on n'y va pas, on souffre. Vous savez, le mot pasco, ça veut dire souffrance. Vous savez, ceux qui sont dépendants, là, que ce soit de l'alcool, le gambling, n'importe quoi, là, c'est quand ils ne font pas leur passion, là, ils souffrent. Puis quand ils font leur passion, ça les soulève. La passion. Et le jour que nous allons atteindre cela comme chrétiens, que nous allons être tellement passionnés que le jour qu'on ne marche pas pour le Seigneur dans les ténèbres, on va souffrir. Là, on va dire, hey, je suis passionné pour l'Évangile. Alors, il faut savoir que dans tout cela, il y a un quatrième mot, c'est la présence de Dieu. Vous n'êtes pas de la cochonnerie, vous n'êtes pas des poubelles, vous êtes unique, vous êtes précieux. Approchez-vous de lui, hein? Pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieux devant Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, les ouvriers de Dieu. Vous avez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Qui va annoncer l'Évangile si on ne le fait pas? Qui va éclairer dans les ténèbres si on n'est pas dans les ténèbres pour éclairer? Qui? Présence de Dieu, ecclésiologie. L'Église doit être présente dans les ténèbres. J'espère que vous ne vous choquez pas. Deux grandes vérités. C'est un côté de ceux qui sont sans l'Évangile. De l'autre côté, vous avez de ceux qui ont l'Évangile. Et là, on disait dans les années 70, ben, vous autres êtes une gang de morts, ignorants, vous devez passer par la croix pour venir avec nous autres. J'aimerais vous proposer un autre modèle. L'autre modèle, c'est deux grandes vérités, ça serait plutôt comme ça. C'est que l'Évangile doit entrer dans le monde des ténèbres. Elle doit entrer là où il y a de la noirceur. L'Évangile doit entrer là où il y a des pleurs, des grincements de dents, là où les gens sont languissants, lorsque les gens souffrent et cherchent et tâtonnent sans vraiment voir. C'est deux grandes vérités. Il y a ceux qui ont l'Évangile et ceux qui ne l'ont pas. C'est deux grandes vérités. Quand Dieu regarde sur la planète Terre, il voit deux catégories. Il voit ceux qui ont l'Évangile puis ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont sans Dieu. Une dichotomie. Et là, on doit arriver avec l'Évangile qui est la croix. Et nous sommes, nous, la présence dans ce domaine ici de Dieu. Et on aurait pu élargir ça, là, presque. Il y a un autre modèle qui le prend complètement, mais j'ai pondéré ça. Regardez bien. Missiologie. C'est l'Évangile. Notre mission, c'est l'Évangile. Notre mission, c'est pas d'avoir 500 personnes d'une grande salle qui tapent des mains puis sur la terre. Pas ça, notre mission. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est l'Évangile. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes tous missionnaires. Là, je vais à l'encontre du 19e siècle. Mais quand même, c'est ça. Il y en a qui sont appelés en Afrique. Il y en a qui viennent de l'Afrique. Et on est clair. Là où ce que Dieu nous a appelés, n'est-ce pas? Il y a la christologie qui est l'incarnation. Vous êtes la présence de Jésus sur cette planète Terre. C'est vous et moi qui sommes la présence de Jésus sur la planète Terre. Et vous et moi, nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ dès notre nouvelle naissance pour ressembler à Jésus. Comment Jésus voit la situation? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? L'ecclésiologie, c'est la présence de Dieu. Vous arrivez au Tim Hortons, je vais arrêter de dire McDonald's, parce que je fais assez de publicité pour eux autres. Vous arrivez au Tim Hortons, on m'a des bonnes toasts, Tim Hortons. Vous arrivez à Tim Hortons, vous assoyez une table, vous commencez à... Là, Dieu est en train de manger des toasts. Bien, je ne suis pas Dieu, là, mais la présence de Dieu. Il mange des toasts. Là, nous, les chrétiens, qui devraient être des gens qui ont le plus d'entre-gens au monde. Hey, bonjour, comment ça va? Hey, as-tu vu ce journal de Montréal? Il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans. C'est toutes des mauvaises nouvelles. Des enveloppes brunes, ça se promène partout. Il n'y en a pas de bonnes nouvelles. Oui, j'en connais une bonne nouvelle. En tout cas, ça de manière. Ça, c'est important. C'est-tu à midi et demi qu'on finit, vraiment? Hein? C'est midi? Ah, OK. OK, on va continuer de bon. Elle peut arrêter là. Mais vu que c'est spécial le 2 juin, on va continuer. Vous savez, les réactions aux gens. Ça, là, j'ai eu bien du fun avec ça. Ben, pas vois, moi, j'aime observer les gens. Tu sais, je suis un observateur naturel. Puis, j'observe les gens, là, puis les réactions, là, c'est assez... Ça n'est le fun, tu sais, excusez, là, mais... C'est un peu comme ce gars-là qui dit, ici, là, il s'en va dans un autobus, il attend l'autobus, puis il dit, « Let's talk about Jesus » sur sa grosse chemise, là. Et là, on va parler de Jésus, puis il dit au voisin, il dit, « Ça me garantit un siège pour moi tout seul. » Les réactions des gens à ça, là, c'est ça. Hein? Ils appellent ça « cold turkey », hein, en anglais, hein. C'est annoncer l'Évangile. « Hey, si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Toi, tu es un niaiseux, tu sais rien. Là, moi, t'as dit comment penser, moi, dit quoi croire, moi, dit qu'est-ce qui est spirituel, moi, dit ce qui n'est pas spirituel, puis ta religion n'est pas bonne, ta philosophie n'est pas bonne, puis tu es une sorte de... Tu sais, va dire, écoute-moi comme fou, là. Pas de même, ça marche. Faut être sage. C'est 4 points, je les dis souvent. 1. Créer le lien de confiance. L'écouter. Ramasser l'information. Ramasse l'information. Écoutez les gens. Quand vous écoutez les gens, là, vous savez tout. Que le gars, il a le cancer de la prostate, que sa femme est morte il y a 2 ans, que le gars, il a 2 enfants qui sont dans l'Ouest, puis il est tout seul chez eux, avec des jewels, toutes les doigts de jewels indiennes. Puis là, sa mère a prié pour lui quand il était jeune, parce qu'il était en train de mourir au sanctuaire du Cap. Puis là, il ne croit pas à l'enfer, puis il est tout, une fois qu'il me voit, il dit, l'enfer, ça sent le brûler, puis il m'appelle le pasteur. Voyez-vous? Les réactions. Regardez bien. Bibliquement, là, il y en a 6 réactions. Des réactions violentes. Surprenez-vous pas de ça, là. C'est arrivé quand Étienne parlait, ils sont bouchés les oreilles, puis ils l'ont tué. Il y a la réaction moquerie, acte 17, c'est philosophe, 17-32A. Ah, hey! On t'entendra une autre fois là-dessus, là. Écoute, là. Viens plus nous achaler, là. Tu vas faire dire notre café boit rien, là. Tu sais, la moquerie. C'est normal. Cassez-vous pas la tête. Ils l'ont fait avec Jésus. Ils l'ont fait avec les disciples dans les Actes. Ils vont le faire avec nous, les amis. Déguisez pas l'Évangile pour y donner un bon parfum que tout le monde va accepter, les yeux fermés. Non. C'est pas de même, ça marche. Alors, l'autre réaction, c'est l'indifférence, acte 17-32B. L'indifférence des gens, ils s'en foutent comme dans la garante. Il faut l'accepter, ça aussi. Parce qu'on est en train de créer des liens de respect, n'est-ce pas? On n'a pas affaire à du monde qui ne réfléchit pas, là. Tu rencontres du monde qui a un bagage autour de là. Et il y a aussi la foi véritable. Wow! T'en as qui acceptent. T'en as qui saisissent l'Évangile par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit touche les cœurs. La personne naît de nouveau. Et la personne, l'autre réaction qu'on voit dans la parole... C'est la réjouissance. Ils se réjouissent. Et l'autre réaction, c'est quoi? Ils glorifient Dieu. C'est 6 réactions des gens. Acceptez ça. Peu importe la réaction qu'ils vont faire. Pètez-vous pas les bretelles parce qu'ils acceptent le Seigneur, puis ils se réjouissent, puis ils se glorifient. Et voyez-vous pas comme un loser s'il y a de la violence ou de la moquerie pour de l'indifférence. C'est normal. On est complice avec Dieu. Nous sommes l'incarnation de Dieu. Nous marchons pour Dieu sur cette terre, frères et sœurs. Et c'est pour ça, pour moi, ce matin, c'était important. J'aimerais ça que vous reteniez ma dernière phrase. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui, je souperai avec lui. Il lui a l'intimité avec Dieu. Voyez-vous, les Nations Unies, ça. Ça, c'est célèbre, ça. C'est un dessin célèbre, je vais saboter. Je vous le dis, là, quand on est préoccupé de cogner au cœur des gens, on arrête de couper le champ en 4 avec des niaiseries. Si la compassion et la miséricorde est dans nos cœurs pour ceux qui ne connaissent pas Christ, on va arrêter de se mordre les uns les autres. On va tomber en amour avec l'Évangile, tomber en amour avec nos frères et nos sœurs, nos co-ouvriers avec nous pour la gloire du royaume. Ma prière pour l'Assemblée du Cap qui va de l'avant, c'est qu'elle soit l'incarnation de Jésus qui frappe aux portes. des cas. Et mes amis, il n'y a pas plus grande réjouissance. Et vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté, il n'y a pas de plus grande réjouissance que de présenter l'Évangile à quelqu'un qui ne l'a pas, peu importe sa réaction. On arrive pépé, hein? Hey, je n'ai plus témoigné à chaque aujourd'hui. Ah, je n'ai plus dire un mot pour Dieu dans telle ou telle circonstance. On se sent utile. Oui, vous êtes des ouvriers. Le piège du diable, c'est de vous dire que vous êtes des chrétiens normaux. Cassez-vous pas la tête. Il y a des ouvriers payés pour ça. Puis le gars qui dit, moi j'évangélise, j'envoie 10 piastres par mois à l'association de Billy Graham. C'est pas ça évangéliser. Je l'ai entendu ça plus qu'une fois. Vous êtes, vous, assemblée du Cap, les ouvriers de Dieu. Puis Dieu a besoin de vous. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous rappeler qui nous sommes. Merci de nous rappeler, Seigneur Dieu, qu'il y a ceux qui